légendes iraniennes. Le conte fait partie du patrimoine culturel de l'humanité. En tant que récit de fées ou d'aventures imaginaires, le conte peut être court ou long et porte en lui une force émotionnelle ou philosophique puissante. Le conte est intemporel et universel et il s'adresse à tous les humains puisqu'il se transfère de génération en génération, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit. Et parmi d'autres, les contes folkloriques occupent une place notoire dans la littérature orale. Et lorsqu'on parle du folklore, l'on veut dire un ensemble de productions collectives émanant du peuple et se transmettant d'une génération à l'autre par voie orale. Les contes iraniens ne font pas exception à la règle. Ils renferment tout un savoir dont s'est doté un peuple très ancien. Dans cette émission « Contes et légendes iraniens », nous traitons ce thème en vous racontant dans chaque édition une anecdote et une légende tirée de la littérature persane et nous n'oublierons pas d'embellir nos émissions d'autant d'un proverbe ou d'une citation persane. Comme il est de tradition dans ce magazine, nous vous présenterons une anecdote tirée du thésaurus de la littérature persane. Cette fois-ci, nous voyagerons dans l'espace et le temps avec une anecdote du Masnavi, ce monument majestueux de Maulana Jalaluddin, pour pénétrer au cœur d'une expérience spirituelle. Avec une autre histoire que le grand poète nous relate dans son beau et chaleureux langage. Mais avant de raconter cette histoire, quelques mots sur le Masnavi et son auteur Maulana Jalaluddin. Restez avec nous. Masnavi est une œuvre poétique de Jalaluddin Muhammad Balkhi. Ce monumental ouvrage, composé de 26 000 distiques en 6 livres, est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de littérature spirituelle et mystique islamique du monde, rédigé dans la forme poétique du Masnavi, qui est aussi le titre du livre. Le Masnavi comprend 434 histoires sous forme de fables et d'allégories qui racontent toutes les difficultés du cheminement de l'homme à Dieu. Ce qui singularise ce Masnavi parmi les autres est la souplesse de l'écriture, en même temps que sa remarquable créativité et renouvellement littéraire, ainsi que la précision dans l'usage des concepts, des néologismes et des expressions nouvelles. Dans le Masnavi, Molavi utilise la narration et le récit comme moyen pédagogique de transmission de notions élevées et en même temps simples. Les récits étant souvent des paraboles, le cadre choisi est simple et chacun peut comprendre les notions développées dans la mesure de ses moyens et connaissances. Visiblement, les histoires des six cahiers ne suivent aucun ordre particulier. Les héros des histoires sont variés depuis les prophètes, les rois et les grands jusqu'à des bergers, esclaves ou même des animaux. Dans le Masnavi, Molavi montre sa dextérité à utiliser les événements quotidiens pour exprimer et transmettre avec précision son enseignement mystique. Une autre particularité remarquable de cet ouvrage est le nombre d'histoires secondaires venant s'encadrer dans l'histoire principale pour souligner tel ou tel point pédagogique mystique ou faire une digression à une autre notion venant éclairer le concept développé dans l'histoire principale. Les idées développées dans le Masnavi sont généralement divisées en trois grandes sections d'idées générales, particulières et réservées aux initiés. La plus grande partie du Masnavi est générale et destinée au grand public. Chacun peut lire et apprécier à sa mesure les paraboles, fables et histoires de cette partie en bénéficiant de l'enseignement moral et éthique général qui y est donné. La deuxième partie du Masnavi comprend ce qu'on appelle les idées frontières de Maulavi et comprend visiblement l'enseignement privilégié qu'il réservait à ses élèves. La troisième partie, enfin, est extrêmement complexe à interpréter et comprend les notions mystiques les plus élevées développées par Maulavi. Cette partie a été largement plus soumise à des divergences d'interprétation que les autres, d'une part et d'une autre, considérant que Maulavi n'a pas pu terminer son œuvre. Certaines histoires et sections de cette partie n'ont pas été commentées. Comme la plupart des poètes ayant utilisé la forme poétique du Masnavi, Maulavi privilégie l'usage de symboles pour illustrer ses idées et son enseignement mystique. Ses allégories, fables et paraboles sont souvent nées de l'imagination créative de Maulavi. Mais il lui arrive également de puiser dans la riche littérature narrative du mysticisme musulman et de prendre parfois, telles quelles, des histoires créées, développées par des soufis, poètes, prédécesseurs. Parmi les formes poétiques persanes, le Masnavi est réputé être simple. C'est pourquoi de nombreux autres poètes tels qu'Abdurrahman Jami ou Attar Nishaburi s'en sont également servis à des fins pédagogiques, avec succès d'ailleurs. Cela dit, aucun n'a pu utiliser cette forme avec autant de succès didactique et esthétique que Maulavi. Chez lui, les différentes notions sont exposées et développées avec facilité dans le cadre de l'histoire et se succèdent sans heurts. D'autre part, bien qu'il ait toujours insisté en mystique sur le fait que la forme n'importe guère et que c'est le fond qui compte, il a pourtant réussi à créer un vrai chef-d'œuvre poétique, non seulement avec le Masnavi, mais aussi avec son pur recueil poétique amoureux, le Divan et Shams, composé de très beaux exemples du Ghazal persan du 7e siècle, période de maturité de cette forme où l'on voit apparaître d'autres géants de la poésie persane comme Sadi, Hafez et Nezami. Et bien dans quelques instants, nous vous raconterons l'histoire du chacal. Il était une fois dans les temps anciens un chacal qui tomba dans la jarre de teinture. Il y resta un moment et quand il en sortit, il constata que sa pelure était toute colorée comme un beau pan multicolore. Lorsqu'il se vit tout en vert, rouge, blond et jaune, il s'en réjouit et il se dépêcha de rejoindre ses congénères. « Je ne suis plus un chacal !» leur lança-t-il, non sans fierté. « Regardez-moi, ma peau et ma pelure multicolores. Admirez en moi ce pan que je suis, si haut placé. Mon rang et ma dignité sont au zénith. Je ne suis plus de vous, vous chacal civil. » Les chacals l'entourèrent, le bombardèrent de leurs questions et lui demandèrent de leur raconter ce qui lui était passé. L'un des chacals l'interpella. « Qu'est-ce que cette nouvelle machination ? Quel est cet artifice pour se rendre intéressant parmi ses congénères pour qu'ils parlent de lui ?» Et le chacal de répliquer « Ma place est dans le jardin paradisiaque. Je suis votre point de mire, votre bien-aimé. Ouvrez vos yeux et regardez-moi, embelli par ses couleurs. » Je suis une idole. Aucun temple ne peut se vanter de posséder une idole aussi belle que moi. Aucun idolâtre n'a taillé une idole aussi magnifique que moi. Mais bon sang, pourquoi vous ne vous prosternez pas devant moi ? Ô vile créature mesquine que vous êtes, les chacals, admirez mon faste, ma splendeur et ma grandeur. Sollicitez humblement ma sollicitude, puisque je suis la manifestation de la clémence divine, le miroir véridique de la puissance divine. Honte à vous, les chacals, ne m'appelez plus ni chacal, ni du nom de toute autre bête, ni même homme ou ange, puisque je représente la miséricorde divine. Avez-vous vu ou entendu un chacal aussi beau, aussi magnifique ? Les chacals s'empressaient autour de lui et lui demandèrent comment l'appeler désormais. Il répondit, « Je suis le paon. » Ils répliquèrent, « Le paon danse dans tout son faste au milieu de la prairie. En fais-tu autant ?» Il dit non. Les chacals demandèrent, « Ta voix est-elle comme celle du paon ?» La réponse fut encore négative. Agacés, les chacals renchérirent. « Mais alors comment peux-tu prétendre que tu es un paon ? On ne peut pas être un paon pour la seule prétention d'en être. Tu n'es qu'un chacal coloré et pas un paon. Tu es ce chacal qui nous a leurré et tu t'es fait passer pour un paon. Tu ignores donc que c'est le Seigneur qui a mis en dépôt par magnanimité dans chacune de ses créatures les vertus et les compétences. Tout le monde ne mérite pas d'être un paon. Malheur à toi, toutes tes couleurs ne parviendront pas à faire de toi un paon. » Et ainsi Molavi conclut. L'art et la vertu sont des mains divines qui ne s'obtiennent pas par ruse ni par artifice. L'histoire de ce chacal illustre cette précieuse sentence. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.